8h29 minutes. Bon jeudi matin. Vous êtes à Boulevard 102.1. Reg, Jeff, Max avec vous jusqu'à 10h. Pas le choix de s'adapter. Y en a-tu des changements? Que ce soit les nouvelles technologies, que ce soit comment on consomme, que ce soit comment on achète des choses. Et on en parle souvent. Max nous jase souvent de montants très élevés quand même que certaines de nos institutions, nos municipalités vont dépenser chez Amazon. Mais c'est la même chose quand même aussi à domicile. Je l'ai souvent dit là, lorsqu'on parle des dépenses de nos universités, nos cégeps, ouais, nos municipalités, que la game a changé aussi chez nous aujourd'hui versus comment c'était versus les achats qu'on faisait, v'là, je sais pas, moi, 5, 10, v'là 15 ans.
Tu veux-tu un chiffre pour te le prouver?
Oui.
18 milliards de dollars ont été dépensés au Québec par les citoyens sur Amazon.
Et
en 2023 et seulement.
Dans les poches d'Amazon.
Aïe, voilà, aïe, aïe.
Voilà. Faut s'adapter, on n'a pas le choix, mais point peut-être plus sérieux à cette discussion-là, ça affecte comment nos entreprises d'ici, les petites, les moyennes, les plus grandes. On va en jaser avec Francis Bérubé, qui est directeur des affaires provinciales, Fédération canadienne entreprises indépendantes. Il est présentement au bout du fil. Francis, bon matin.
Bon matin.
Merci d'être avec nous ce matin, Francis. À quel point ça a un impact, tous ces millions et milliards qu'on dépense chez Amazon sur nos petites entreprises et nos moyennes, même nos grandes, mm-hmm, ici au Québec?
Bien, le premier impact, en fait, on a voulu, de notre côté, évaluer l'impact d'investir un dollar soit dans l'économie locale ou dans une grande plateforme en ligne. Puis c'est 59 sous, en fait, du dollar au Québec là, qui demeure dans l'économie locale quand on achète local.
Okay.
C'est 8 sous, en fait, du dollar là, quand on achète là, en ligne, là, dans le fond, nos produits. Donc, il y a un impact concret sur notre tissu entrepreneurial, dans le fond, là, quand on dépense localement, là, de façon quand même très grande là, par rapport quand on regarde, quand on achète sur Amazon, par exemple.
Bien, tellement, c'est immense. Là, on parle du 8 sous versus ce 59 sous. Qui, Francis, selon vous, et toi-même, professionnellement et personnellement, est à blâmer? Puis ouais, je veux pas nécessairement mettre le blanc, ouais, mais juste pour qu'on en jase, c'est-tu l'individu? C'est-tu Amazon? C'est-tu le système? C'est-tu les entreprises, puis on s'adapte pas?
Bien, il y a plusieurs éléments dans ça, dans le fond. Là. C'est sûr que l'environnement réglementaire, l'environnement d'affaires, puis le comportement citoyen vont jouer. Si on regarde dans le dossier récent qu'il y a eu, par exemple, on a vu des institutions qui sont les cégeps, universités, on a vu des reportages aussi sur les villes qui dépensaient sur Amazon. Donc, quand on parle d'institutions publiques, il y a quand même un enjeu d'exemplarité, hein, d'exemple à donner, comme ils eux-mêmes fonctionnent avec des fonds publics, que l'investissement de l'université ou du cégep, ou même de la ville, peu importe, quand elle investit, idéalement, avec nos deniers publics, on espère que ça va, je l'ai dit tantôt, les proportions, que ça va percoler dans notre propre économie. Donc, utilisons ça comme un levier. C'est sûr, ensuite, pour le citoyen, c'est un enjeu de conscience. Vous savez, durant la pandémie, on a parlé d'achat local, on a pris conscience aussi de l'impact de nos petits commerces locaux sur la vitalisation de nos centres-villes et tout. Moi, souvent, je vais faire un peu un parallèle avec... À une certaine époque, on a commencé à prendre conscience de notre comportement sur l'environnement. Par exemple, on a commencé à recycler, tout ça. C'est un peu la même chose, vous savez, avec l'achat local. Avec l'achat local, quand on choisit d'investir ici, par exemple, pour économiser 5 minutes, vous voyez la différence entre le dollar investi chez nous ou sur une plateforme en ligne. Vous voyez, ça vient un choix. On va regarder notre environnement économique, socio-économique, comme on regardait notre environnement, l'environnement, dans le fond, qu'est-ce qu'on faisait sur nous, l'écologie, avec le choix ou non de recycler, par exemple. Donc, oui, il y a un choix personnel. Il y a un choix aussi quand ça relève d'institutions, ils peuvent se doter de politiques pour favoriser l'achat local. Donc, il y en a qui ont ces politiques-là. Québec, par exemple, c'est un exemple à suivre. La ville de Québec, comparativement, par exemple, à Montréal, avait une bien meilleure note de passage au niveau de l'achat local. Là. Donc, ouais, tu sais, il y a moyen de faire des choses quand même.
Francis, est-ce que au-delà des politiques, il y a moyen aussi de créer des partenariats avec des entreprises? Puis là, je t'explique un exemple concret, ouais, que j'ai vécu. Je gérais les banques alimentaires pour le Patro Charlebourg. Puis on créait des ententes de partenariat avec les épiceries locales où justement on achetait chez eux eux nous redonnaient en retour des denrées aussi lorsque ça passait proche de devenir passé de date. Fait qu'on créait ce genre de partenariat-là pour s'assurer que le dollar que j'investissais, je le mettais dans l'entreprise locale. Est-ce que les cégeps, les universités, les villes pourraient faire de la même façon avec les commerçants locaux?
Là, par exemple, oui, en fait, ça, dans certains cas, ça existait. C'est sûr que là, dans les dernières années, il y a eu des changements. Il y a eu la création du centre d'acquisition gouvernementale. Dans le fond, c'est sûr qu'ils ont fait des... Si le gouvernement a fait le choix de faire des achats groupés pour l'ensemble des régions, par exemple, il y a même un enjeu de développement régional dans ça. Si, par exemple, tous les achats se font au même endroit, ça part d'un entrepôt, par exemple, de Montréal, puis ça coule dans le reste des régions du Québec. C'est sûr que les petits commerces dans toutes les régions, par exemple, si les hôpitaux, les commissions scolaires, par exemple, s'approvisionnaient, il y a un enjeu. Donc oui, ces partenariats ont toujours un peu existé, là. Avec les villes, même chose. Donc, il y a un enjeu aussi réglementaire de s'assurer, tu sais, oui, on comprend la notion du bus missionnaire pour les citoyens, mais en même temps, tu sais, quand on connaît l'impact de l'achat local, ça prend cette marge de manœuvre-là pour développer, justement, des réseaux, des partenariats locaux, régionaux, pour justement favoriser notre achat local. Mais il y a des règles actuellement en place. Il y a des éléments qui ont été assouplis, mais il y a quand même des barrières quand on parle d'institutions publiques. Qui pourrait être enlevé justement pour favoriser l'achat local. Dans le privé, on va le voir, ce que vous dites, ça oui, il y a des réseaux qui se forment, donc ça on le voit là, de façon beaucoup plus évidente, là. Mais dans le public, là, ça, malheureusement, il y a des règles qui empêchent des fois de faire ça, là.
On a parlé un peu de à qui la faute présentement, puis bon, c'est un peu un paquet de monde, mais maintenant, la question prise juste de l'autre bord, à qui reviendrait l'obligation ou la responsabilité de donner le plus l'exemple?
C'est sûr que l'État en soi doit donner l'exemple, parce qu'une partie des revenus de l'État proviennent des petites et moyennes entreprises qui composent l'essentiel, en fait, du tissu entrepreneurial et des entreprises au Québec. Donc, tu sais, je vais vous donner une idée, là, 53% des entreprises au Québec ont moins de 5 employés. Là. Fait que, tu sais, la PME, fondamentalement, c'est le socle économique qui nourrit l'État. L'État, en retour, doit donner l'exemple. En favorisant justement ces petites moyennes entreprises. Puis ces petites moyennes entreprises vont devenir éventuellement les grandes entreprises qui vont aussi contribuer à l'État. Mais je vous dirais, c'est sûr que c'est l'État. Le citoyen, lui, c'est plus une prise de conscience personnelle dans la mesure du possible. Si quand il a l'opportunité d'acheter local, vous savez, la plupart des PME, de toute façon, en tout cas, une grande partie, ont déjà fait le virage. Fait que des fois, c'est juste de faire une petite recherche de plus. Les prix sont... Dans plusieurs cas, les prix se ressemblent. Là. Donc, tu sais, des fois, c'est pour sauver 5 minutes. Là, ça relève du citoyen. Mais l'État, lui, a quand même un devoir d'exemplarité à ce niveau-là.
Francis, tu as un peu répondu à ma prochaine question, mais je t'appose oui. Quand même, parce que l'argument de base chez quelqu'un ou une entreprise, une municipalité, une école qui va utiliser le service d'Amazon, c'est c'est plus simple, ça coûte moins cher. Est-ce que les entreprises d'ici peuvent se battre contre cet argument-là?
Ben de plus en plus, en fait, parce que il y a aussi, tu sais, il y a des PME qui sont présentes sur Amazon. Nous, nos sondages qui nous disent que les PME qui composent avec Amazon, il y a quand même une plus forte proportion qui trouve ça difficile de travailler avec Amazon que celles qui trouvent ça positif ou en tout cas qui ont une expérience positive. Mais c'est ça. Donc, mais de moins en moins, je vous dirais. Okay. Depuis la pandémie, il y a quand même un gros virage. Puis, tu sais, des fois, c'est ça. C'est vraiment une recherche peut-être. Un petit peu plus longue dans certains cas, là, mais souvent, je pense que dans les articles qui ont été faits, ils ont donné des exemples que finalement, au coin de la rue, c'était possible d'aller chercher le produit. Donc, c'est pas toujours vrai, c'est de moins en moins vrai.
Okay,
mais dans certains cas, oui, ça peut l'être.
Francis, en terminant, il y a l'inflation présentement, la hausse du taux des intérêts, il y a des pertes de parts de marché au profit d'Amazon. Est-ce qu'on craint plusieurs fermetures d'entreprises de PME en 2024? Parce que je me souviens d'avoir lu un rapport là, qu'on parlait qu'il y avait pratiquement le quart des entreprises là, qui étaient à un point pratiquement limite là, en termes de savoir s'ils prenaient la décision de fermer.
Oui, en fait, définitivement que 2024, là, ça va être une année quand même charnière pour plusieurs entreprises. Il y a eu la fin des prêts au niveau du gouvernement fédéral
de la COVID.
Pandémique. Donc, tu sais, il y a plusieurs petites entreprises qui composent toujours avec un endettement quand même important. Puis l'inflation va être impactée de façon plus disproportionnée la petite moyenne entreprise. Va augmenter ses prix, mais va aussi, pour demeurer concurrentielle, puis qu'il y a moins de capacité de faire des économies d'échelle, va gruger dans ses marges bénéficiaires. Mm-hmm. Fait que oui, les petites PME actuellement sont quand même, plusieurs entreprises là, ont des difficultés. Donc oui, on s'attend à plus de fermetures à ce niveau-là. Puis si on compare par Amazon, nous, on avait sondé nos membres, c'est 89% des PME canadiennes qui jugent qu'Amazon menace leur survie. Donc, c'est quand même pas anodin, là.
Francis Bérubé, directeur des affaires provinciales de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Hey, Francis, merci beaucoup pour la discussion ce matin.
Bien, merci à vous.
C'est super intéressant. À bientôt.
À bientôt.
Salut. Bien intéressant par rapport à ça. Ben, tu sais, c'est surtout le fait, j'aime beaucoup l'argument. Tu sais, à la base, c'est ça, là. Ouais. Tu sais, ça se limitait, puis c'est bon, toute la discussion autour de ça, mais tu magasines chez Amazon parce que c'est plus simple, puis c'est moins cher. Mais finalement, quand tu regardes ailleurs, nos entreprises d'ici, c'est peut-être aussi simple, puis aussi moins cher.
Oui, puis tout est toujours dans un cercle. Si tu magasines trop sur Amazon en tant que citoyen, ben peut-être que c'est tes taxes puis tes impôts qui vont augmenter parce qu'il va y avoir moins d'entreprises qui vont contribuer à l'État. Donc, ça vient jouer là-dedans. Et je comprends l'État de vouloir centraliser certains achats, certains regroupements aussi d'employés, ouais. Parce que ça te prend moins d'employés. Mais à partir de là, ben, tu fais mourir tes régions.
Oui, c'est vrai. Un excellent point. Puis c'est une discussion puis un sujet qu'on va, évidemment, là, ça va continuer puis ça va suivre au cours des prochains mois, les prochaines années. Courte pause après la pause à Rage Against le matin. On jase avec le nouveau commissaire de la Ligue nationale d'hockey-ball.
Malade.
Vous le connaissez? Et oui, ça existe, un commissaire de la Ligue nationale d'hockey-ball. Bougez pas.
On s'arrête deux.